67. Et c'est la fin de ce bulletin d'information.
Bonsoir à toutes et à tous. Élisée Mpati devant ce micro. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Comme tous les lundis soirs, le rendez-vous, le même pour parler de sport. C'est bien sûr Sporama. 30 minutes pour passer au crible l'actualité sportive du week-end. Et comme d'habitude, nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Lawatin Kosuro qui est dans ce studio avec moi. Bonsoir Lawal.
Élisée, je vous salue aussi.
Amin Birouk est en direct de Casablanca au Maroc. Bonsoir Amin.
Bonsoir Lizzie, bonsoir à tous.
Valdo Simbo Nyamba Nyamba nous rejoint depuis Kinshasa en RDC. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Lizzie, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis nous retrouvons Amédine Sy à Dakar au Sénégal. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Lizzie, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Dans la charpente de l'émission ce soir, la CAN 2023 en juin-juillet, c'est ce qu'a décidé la FIFA au grand désarroi des fédérations africaines de foot, hésite Claude Leroy au Togo. Le sorcier blanc, entre-temps noirci, a préféré jeter l'éponge. Bienvenue à tous. On connaît désormais les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions en Europe. Le Paris Saint-Germain affrontera Manchester City qui intègre le dernier carré de la compétition pour la première fois depuis que Pep Guardiola a pris l'équipe. Et le Real de Madrid sera opposé à Chelsea de Thomas Tuchel. Lawal, pour la deuxième année consécutive, le PSG disputera les demi-finales.
Oui, c'est une bonne nouvelle pour les Parisiens, pour la Ligue française de foot, parce que remettre en ça, comme l'année passée, c'est important de le faire. Et l'investissement des Qataris est en train donc de porter ses fruits. Et on espère pour les Parisiens qu'ils vont sortir le grand jeu pour réussir à franchir la montagne mancunienne et se retrouver en finale comme la saison dernière face au Bayern, même s'ils ont perdu cette rencontre par inexpérience. On espère qu'ils ont acquis beaucoup d'expérience cette fois-ci pour surmonter la montagne.
À la recherche du trophée.
Oui. Il faut le dire, mais il faut reconnaître une chose. Le parcours des Parisiens, d'abord sorti le Barça, et ensuite le Bayern tenant du titre, c'est déjà quelque chose d'assez impressionnant, d'assez hallucinant pour les Parisiens. Et aujourd'hui, si le Paris Saint-Germain a réussi à sortir le Bayern,
comme le faisait le Real,
pour finalement remporter
le trophée.
On lui souhaite que le Bayern puisse être la chance parisienne, parce que lorsque le Real a sorti le Bayern, on s'en souvient encore, le Real s'est hissé sur le toit de l'Europe. On espère pour les Parisiens que ça va se passer comme ça. Mais ça va être très très compliqué déjà face à City. Et après City, ce sera ou Chelsea ou le Real Madrid. Et on reconnaît que quand le Real Madrid se retrouve en demi-finale, il fait tout pour être en finale et le Real ne joue pas une finale. Il le remporte souvent. Donc, c'est ouvert pour les quatre clubs qualifiés pour le dernier carré.
Le chemin est donc encore long pour le club parisien. Valdo, justement, le Real doit se méfier de Chelsea, même si on le voit favori.
Méfiance, c'est Chelsea a quelque chose de particulier depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. Le Blues ont des statistiques qui attirent la curiosité des avertis, surtout en Ligue des Champions, avec un parcours presque similaire à celui de Chelsea de Di Matteo, vainqueur de la Coupe aux Grandes Oreilles en 2012, arrivé en demi-finale alors qu'il n'était pas attendu. Il y a de quoi rester prudent face à ces clubs dont ce genre de parcours est déjà une victoire. C'est méfier, oui. Mais c'est quand même le Real Madrid en face, le plus titré de tous dans cette compétition. Le Real qui connaît également, comme d'ailleurs dans ses habitudes, une pente ascendante. Et ce n'est vraiment pas Chelsea qui pourrait faire douter Zinedine Zidane, puisque ces hommes ont atteint une seconde maturité, surtout avec Kroos, Modric, Casemiro ou encore Benzema, de toutes les batailles. Fort de ces noyaux, le Real reste bien favori devant les Blues de Chelsea qui ont rendez-vous avec l'histoire.
Amin Birouk, l'Afrique sera présente dans le dernier carré cette saison.
Tout à fait, Élisée. L'Afrique sera bien représentée dans ce dernier carré de la compétition et en particulier le Sénégal, l'Algérie et le Maroc. L'équipe de Chelsea possède deux joueurs africains avec un dernier rempart solide comme Edouard Mendy, international sénégalais, mais également Hakim Ziyech qui joue de moins en moins avec Thomas Tuchel, lui qui avait été l'artisan de la qualification pour les quarts de finale face à l'Atlético de Madrid. Prime également au talent du côté de Manchester City avec Riyad Mahrez, également décisif lors de la dernière rencontre face au Borussia Dortmund. Et puis, n'oublions pas du côté du Paris Saint-Germain, la présence de deux internationaux sénégalais, Diallo, jeune arrière-gauche en pleine progression, mais également Idrissa Gueye qui a été énorme lors de la confrontation face au Bayern Munich. Autant dire que nous serons aux premières loges à l'occasion de ce dernier carré de la compétition, qui regroupe finalement un grand d'Europe, le roi d'Europe, le Real Madrid, mais également des équipes détenues par des chairs ou des oligarques. Chelsea, propriété de Roman Abramovich, le Paris Saint-Germain depuis de très nombreuses années, made in Qatar, et puis les Émiratis de Manchester City, deux clubs qui n'ont jamais gagné la Champions League, qui n'ont toujours pas eu l'ADN de cette compétition, mais qui pourraient peut-être l'acquérir en gagnant enfin le plus convoité des trophées européens.
Amédine, si le Sénégal est bien représenté avec le Paris Saint-Germain et Chelsea et pourra croire au titre final.
Tout à fait, Élisée. En effet, trois ressortissants du pays des Lions de la Teranga vont descendre sur le rectangle vert pour disputer l'avant-dernière acte de la plus prestigieuse compétition européenne. Il s'agit des deux Parisiens, Ganagay et Abdou Diallo, qui vont affronter le grand Manchester City de Pep Guardiola. Il faut dire que Ganagay, qui a été auteur de match époustouflant face au Bayern de Munich, va tenter quand même de tout faire pour aider ses partenaires à disputer pour la deuxième fois consécutive la finale de la Ligue des Champions. Il y a également Abdou Diallo, l'ancien capitaine de l'équipe nationale espoir de la France, qui sera à côté de Ganagay. Mais à côté, il y a également Edouard Mendy de Chelsea. Edouard Mendy, qui est le dernier rempart des Blues. Il sera une nouvelle fois l'un des atouts de Chelsea face au Grand Real de Madrid. Donc, tous les Sénégalais seront derrière le Paris Saint-Germain, mais également de Chelsea, pour les supporter lors des demi-finales de la Ligue des Champions, Élysée.
Un peu plus sur la période à laquelle se jouera la Coupe d'Afrique des Nations de football de 2023. La compétition en Côte d'Ivoire couvrira les mois de juin et juillet. C'est ce qu'a confirmé la FIFA à travers son calendrier. Amédine, c'est une période pas trop favorable pour la Côte d'Ivoire qui devra renforcer ses infrastructures.
Oui, Élisée, il faut dire que cette période n'arrange pas le pays des éléphants, qui n'est pas encore prêt sur le plan des infrastructures. Mais je pense, Élisée, que la Côte d'Ivoire peut relever ce défi, car les Ivoiriens ont encore le temps pour mettre les bouchées doubles, car ils ont 14 mois, c'est-à-dire un an et deux mois. Pour moi, donc, la Côte d'Ivoire fera tout pour être fin prêt en fait d'accueillir la grande messe du football continental. C'est une mission difficile, il faut le reconnaître, mais pas impossible pour les Ivoiriens. Élisée.
Justement, Valdo, les conditions météo seront catastrophiques durant la période dans ce pays.
Exactement, Élisée, ça risque d'être très compliqué avec des conditions météorologiques pas assez commodes entre mars, juin, voire le mois de juillet. Faire jouer une phase finale des Coupes d'Afrique des Nations pendant cette période juin-juillet, c'est faire avec les intempéries assorties des pluies qui auront sans nul doute de l'influence sur les jets et au cas où c'est sur une pelouse naturelle. Allez-y comprendre. Mais est-il que toutes les nations qui s'y rendront prendront certainement des dispositions quant à ce. Élisée, je me demande toujours pourquoi tous ces mouvements autour de cette compétition, tantôt c'est fin janvier, début février et parfois juin et juillet. J'ai comme l'impression que l'Afrique va toujours continuer à subir la loi du plus fort. Donc tout ça, que dit la CAF? Pouvons-nous conclure directement que la FIFA décide et la CAF approuve?
On pourra le dire ainsi, Valdo. Alors Amine, après l'Égypte, ce sera la Côte d'Ivoire qui va abriter la CAN en été, mais pas dans les mêmes conditions.
Pas dans les mêmes conditions, puisque la climatologie sera différente, mais on se dirige vers une harmonisation du calendrier FIFA, et notamment du calendrier de la compétition la plus convoitée en Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations. On aura donc la parenthèse camerounaise qui se déroulera comme le veut la coutume en janvier-février, mais dès 2023, on va reprendre la nouvelle habitude qui a été instaurée en Égypte en 2019, celle de disputer la compétition toute fin de saison. Les organismes seront beaucoup plus fatigués en 2023 que lors de l'édition qui aura lieu un an et demi plus tôt. Au Cameroun, nous aurons des joueurs plus compétitifs, plus en jambes, alors que en Côte d'Ivoire, en juin 2023, nous aurons certainement des joueurs au bout du rouleau en fin de saison, d'où la nécessité d'avoir une meilleure récupération, plus de moyens de récupération et surtout un programme de préparation physique plus adéquat.
Lawal, l'éternel problème de la période à laquelle il faut organiser la CAN refait surface à chaque zone sa période d'organisation.
Non, Élisée, c'est une aberration qu'on impose cette période-là à la CAF. Rappelez-vous, Tunisie 94, on a joué la CAN en janvier. Algérie 90, c'était en janvier. C'est la même zone que l'Égypte. Et aujourd'hui, quand on trouve un prétexte pour ramener la CAN
en juin,
c'est comme si la FIFA avait la volonté donc de s'imposer à la CAF ce qu'elle réussit à faire.
Rien de surprenant.
Si aujourd'hui on en est arrivé là, c'est parce que les responsables de la CAF n'ont peut-être pas droit au chapitre pour refuser certaines choses. Et quand on regarde un peu la CAN en janvier, c'est vrai que ça crée quelques petits ennuis pour les clubs européens, c'est vrai. En juin, c'est la fin des championnats, c'est tout aussi vrai.
Mais le mondial prochain se jouera
en novembre-décembre du côté du Qatar. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut justement déplacer la CAN elle seule et laisser les autres. Je pense que les Africains devraient prendre leurs responsabilités et proposer un calendrier qui court les mois de janvier, février, comme on a pris l'habitude depuis plusieurs décennies de jouer la CAN pendant cette période-là.
En attendant de proposer ce calendrier, Lawal, la CAF aussi a porté à la connaissance des fédérations affiliées son calendrier, surtout la date de la fin de la saison, ce qui a obligé la Fédération béninoise de football à faire jouer son championnat sur 5 mois. Démarré le 31 janvier dernier, cette Super League Pro sera à sa seconde phase le mercredi.
Non, vous parlez de Super League Pro, ça n'a rien de professionnel. C'était juste un ramassis des clubs de D3, D2 qu'on a mis ensemble avec les clubs de D1. C'était tout sauf une ligue professionnelle. Maintenant, qu'est-ce qui a pu piquer le ministre des Sports à imposer une telle formule à la fédération qui n'en a rien dit? On ne saurait le dire.
Cette saison, les championnats ivoiriens togolais aussi se jouent en deux groupes.
Non, les championnats togolais ivoiriens se sont joués en deux groupes. Vous n'allez pas voir ce mélange hétéroclite là de clubs de D3, D2 et D1. Non, c'est les clubs de D1 qu'on a mis ensemble, on a divisé en deux, c'est tout. Le Bénin a fait l'exception de mélanger tout le monde. Je ne vais pas l'appeler championnat, c'est juste un tournoi pour mettre les joueurs en jambes, mais ils ne seront pas suffisamment en jambes pour jouer les campagnes africaines la saison prochaine.
Pareil aussi au Mali, et pendant que Djoliba domine le groupe B, le Stade malien est en difficulté avec une deuxième place dans la poule A. Par contre, au Burkina Faso, le championnat est linéaire et se joue avec 18 clubs après 26 journées. C'est l'AS Sonabel qui est en tête, même format au Sénégal. À Médine, c'est déjà la fin de la phase aller, même si tous les clubs n'ont pas joué le même nombre de matchs.
Oui, Élisée, la Fédération sénégalaise de football est en train de tout faire pour respecter le calendrier de la Confédération africaine de football. Comme vous l'avez dit, la phase aller du championnat a été bouclée, mais il reste encore quelques matchs qui concernent les deux clubs sénégalais qui étaient en lice sur le plan africain. D'ailleurs, la Ligue professionnelle a profité de ce week-end pour mettre à jour son calendrier en programmant les matchs retard de Tengej FC et du Djaraf. Tengej en a profité pour battre la Douane sur le score de 2-1. Tengej s'empare d'ailleurs du fauteuil de leader, hein, malgré deux matchs de retard, car les Tengejois doivent jouer contre Dakar, Sacré-Cœur et Pékin. Quant au Djaraf de Dakar, il a été tenu en échec par le Stade de Mbour, le score de 0-0, mais les Verts Blancs, qui sont toujours en course pour la qualification en Coupe de la CAF, vont jouer un autre match de retard. Ce sera contre Niaritali Élisée.
Valdo, en RDC, l'Alina Foot bat son plein et malgré les bonnes performances de Sanga Balende et Manuma Union, ça va se jouer comme d'habitude entre le TP Mazembe et la SV Club, deux équipes qui ont déçu en Ligue des Champions cette saison.
Élisée, vous l'avez dit, hein, Mazembe et V-Club ont déçu en Ligue des Champions comme jamais lors des 10 dernières années. Mais cela ne réduit en rien leur désir et volonté d'y retourner. Question de revoir leurs ambitions et montrer au monde que ces faux pas n'a été que quelque chose d'exceptionnel. Et ce retour passe par les deux premières places du championnat dont ils détiennent les monopoles depuis plus de 10 ans. Et cette saison, ces monopoles n'est pas du tout à l'abri d'une menace, voire plusieurs, puisque Mané Maignan tient à tout prix à jouer les premiers rôles. Le club de Kindou vient de reprendre les commandes du championnat après sa victoire 2-0 sur Simba, pendant que le tout-puissant Gilbert Mazembe s'est contenté d'un nul blanc face au promu Blessing qu'il n'a pas battu en aller et retour. Pendant ces temps, Sanga Balende et Loupopo mettent la pression sur l'ASV Club et ne veulent rien lâcher. Il y a donc trois places africaines pour au moins cinq prétendants. L'expérience des Mazembe et V Club risque toutefois d'être un handicap pour leurs concurrents car ces deux clubs savent toujours quoi faire pour ne rien rater.
Amine Birouk, la Bolota est bien dominée cette saison par le Wydad de Casablanca après un début difficile de son rival le Raja qui a d'ailleurs fait signer un nouvel entraîneur.
Le Raja de Casablanca a un entraîneur tunisien, le Saad Chebbi Jarda, qu'on avait découvert à l'occasion de la double confrontation entre le club casablancais et l'US Monastir, récent vainqueur de la Coupe de Tunisie. Visiblement, le fait qu'il ait contraint et poussé le Raja dans ses derniers retranchements a fait pencher la balance en sa faveur. Il faut aussi admettre que ses conditions financières étaient modérées. Elles conviennent à un club actuellement dans une grave crise sur le plan pécunier. Le Wydad de Casablanca continue à dominer le championnat en dépit de son match nul à domicile face au Moulouya d'Oujda. Et le Raja continue à le talonner. Le Raja qui a réussi à réduire l'écart de 2 points après sa victoire in extremis contre le Maghreb de Tétouan 3-2 lors de la soirée de vendredi. Un Raja de Casablanca qui attend monts et merveilles de son nouveau coach tunisien.
On reste avec vous, Amine. En Algérie, la Fédération de football a un nouveau président. Et sans surprise, Sharaf Eddine Amara remplace Kereddine Zeshi.
C'était cousu de fil blanc. Sharaf Eddine Amara, président de Belouizdad, succède à Kereddine Zeshi. C'était la volonté du pouvoir politique en Algérie. Ce dernier devra protéger les Fennec, c'est en tout cas le souhait de Jamel Belmadi qui n'a pas voulu s'ingérer dans ce débat électoraliste et surtout réussir à amender les textes de la Fédération algérienne de football. La FIFA avait insisté sur le fait que ce devait être le sujet principal avant l'Assemblée générale. Les autorités politiques en Algérie ont préféré sursoir et aujourd'hui, on verra si la FIFA ne va pas sévir. Ce sera d'ailleurs la première mission du nouveau président de la Fédération algérienne de football. On a changé une tête, mais on a gardé l'entourage de Kereddine Zeshi qui va l'accompagner et peut-être apporter son expérience de la gestion du football algérien, un dirigeant plutôt novice.
Direction le Togo et clap de fin entre Claude Leroy et la sélection nationale. Le technicien français a annoncé sur la chaîne cryptée Canal Plus sa démission du poste de sélectionneur du Togo. Un communiqué de la Fédération togolaise de football a confirmé l'info dans la foulée à l'issue d'une réunion avec le ministre des Sports. L'ancien sélectionneur du Cameroun, du Sénégal ou encore des deux Congos n'est pas parvenu à qualifier les éperviers pour la phase finale de cette CAN Cameroun 2022. La presse togolaise s'est prononcée sur cette démission. On écoute Evelyne Beniedji, elle est la directrice du groupe Média Sousport.
Quand on jette un regard dans le rétroviseur après 5 années passées aux commandes des éperviers, Claude Leroy lui-même il a reconnu que son bilan n'est pas reluisant. C'est vrai qu'il a contribué à l'arrivée de plusieurs binationaux dans le nid des éperviers, mais sur le terrain, les résultats n'ont pas suivi. Cependant, il est impossible de peindre tout en noir son bilan, je voulais dire. Avec lui ou sous lui, il n'y avait plus de problèmes organisationnels dans le nid des éperviers. À chaque journée, FIFA, le Togo disputait au moins une rencontre internationale amicale. Et sur le plan des jeunes avec son association Graines du Togo, cela a permis de détecter beaucoup de talents, plusieurs talents qui ont étoffé les différentes sélections de jeunes. Raté de CAN successives, c'était peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et n'étant plus en synergie avec une grande partie de la presse et le public sportif qui réclamait pratiquement à chaque match son départ. Maintenant, il faut tourner la page et avancer. On verra ce que l'après Claude Leroy nous donnera. Moi, personnellement, c'est ma grande interrogation. Et donc, nous attendons de voir.
Amine Birouka, après Moléphine Seki en Afrique du Sud et Luis Gonzalves au Mozambique, le dénouement des éliminatoires de la CAN 2022 a fait une troisième victime. La pression était énorme depuis 2 ans et la dernière défaite à domicile face au Kenya a précipité les choses à 2 mois du début des éliminatoires du Mondial 2022.
On peut dire que ce dernier passage de Claude Leroy au Togo n'aura pas été tout à fait concluant. Le pays s'était qualifié pour la CAN 2017, mais la sélection des éperviers avait été éliminée dès le premier tour dans un groupe compliqué tout de même avec la...